On est accompagné de notre chroniqueuse en politique fédérale ce matin, Mme Carole Hughes, ancienne députée pour notre circonscription. Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Et avant que j'oublie, je vais souhaiter une belle été à tout le monde. J'ai entendu parler que vous avez eu une très belle Saint-Jean. Gros party de la Saint-Jean, j'ai bien vu ça. Et puis, c'est ça, j'espère que tout le monde va avoir une belle été.
Bon, ben on vous souhaite une très belle été à vous aussi. On a plusieurs sujets quand même à aborder aujourd'hui. Entre autres, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes canadiens, qui représente quelques quand même 55 000 employés, a indiqué que ses membres ont voté à 86 % en faveur de la convention qui concerne l'unité urbaine et à 89 % en faveur de celle qui concerne l'unité des factrices et facteurs ruraux et pour les banlieues. Post-Canada avait déjà annoncé avoir enregistré une perte de 205 millions de dollars avant impôts au terme de 3 mois de l'année 2026. L'année dernière, elle avait enregistré une perte financière de 1,57 milliard de dollars avant impôts. On le voit, là, ça ne semble pas se régler au niveau financier pour Post-Canada. Ottawa avait pris des mesures, mais vous vouliez m'en parler davantage?
Alors, c'est quelque chose que, quand moi j'étais avec le NPD, on avait demandé à plusieurs prise à Post-Canada de regarder à autres services à offrir, tels que des services bancaires. Et le CCPA, dans son rapport, indique aussi que la société devrait faire des investissements plus audacieux et innovatifs pour générer plus de revenus, tels que celui bancaire, comme que le NPD avait, et les travailleurs de du syndicat de Post-Canada demandaient aussi, ainsi que des services de télécommunication pour renforcer le rôle dans la prestation des services publics. Fait qu'on voit qu'il doit regarder encore une fois au service qu'il donne pour améliorer le service et non réduire les services.
Effectivement, là, parce qu'on en a besoin de cet organisme de poste-là, surtout dans les régions rurales comme Kapuskasing, là, parce que bien souvent, ben, c'est le seul bureau de poste qu'on a en personne, qu'on a accès nous-mêmes. On voulait aussi parler du projet de loi C-30, la loi qui porte sur l'exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique du printemps, et qui a été adoptée jeudi, la semaine dernière. Celui-ci comprend des dispositions qui visent à affaiblir la réglementation canadienne sur les pesticides. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup, nous autres, dans le Nord-Est. Il y a plusieurs municipalités qui ont interdit, entre autres, le glyphosate, là, un pesticide qui va être réadmis par le gouvernement du Canada grâce au projet de loi C-30. Vous avez une opinion là-dessus? Trois des partis d'opposition se sont opposés. Le gouvernement fédéral libéral a quand même décidé d'aller de l'avant. Vous en pensez quoi, vous, Mme Hughes?
Oui, alors c'est certain que c'était dans le projet de loi omnibus du gouvernement. Alors c'était assez problématique où ce qu'on c'est pas la première fois qu'on voit des projets de loi omnibus. Il semble que les gouvernements veulent en faire plus avec ça. Mm-hmm. Alors il met des changements qui devraient pas être là, qui devraient être débattus. Par eux-mêmes, mais à place pour essayer de pousser leurs agendas et réduire le montant de changement à qu'est-ce qu'ils veulent avoir, on fait des projets omnibus. Fait que c'est exactement ça qui est arrivé avec les changements qui s'en viennent. Alors, c'est assez problématique étant donné que la réglementation pourrait augmenter considérablement l'exposition possible à ces produits chimiques toxiques. Qui va en danger la santé humaine, notre environnement et risque vraiment les engagements internationaux en matière de protection de la nature. Alors, on a vu où ce qu'il y a 13 des scientifiques de 13 universités canadiennes. Il y a des organisations environnementales et des organisations qui œuvrent dans le domaine de santé qui ont dénoncé les réformes parce qu'ils savent, avec le travail qu'ils ont fait et le fait que plusieurs des pesticides qui sont déjà interdits par Santé Canada peuvent maintenant être réintroduits dans nos environnements et dans nos corps vraiment là aussi. Mm-hmm. Là. Fait que ça peut aussi affecter nos eaux potables. Alors, c'est vraiment problématique de voir que le gouvernement pourrait réautoriser l'utilisation des pesticides qui sont interdits. Je pense que le glyphosate, c'est quelque chose que j'ai travaillé dessus tout le long de ma carrière pour essayer de bannir ça. On sait qu'il y a des places qui l'ont banni, mais pas tout. Le gouvernement, avec leur comité de procédure, continue à dire que c'est encore un produit, le glyphosate est encore un produit qui peut être utilisé. D'abord, c'est utilisé dans les restrictions qu'ils ont mis en place. Alors, mais maintenant, on voit que ça peut être très difficile à convaincre le gouvernement de ne pas utiliser des produits qui sont déjà interdits. Eux, ils disent que s'il y a un problème de sécurité économique, si on a un problème d'infestation grave, si on veut favoriser des récoltes à cause de la souveraineté alimentaire, qu'on pourrait donner l'approbation d'utiliser ces produits-là, même si on sait que ça peut causer des problèmes de santé. Puis il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de problèmes de cancer, qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cancer. Est-ce qu'on veut ignorer les faits pour essayer d'apaiser les grandes entreprises qui ont fait du lobbyiste avec la ministre de la Santé? On parle depuis le gouvernement est en place, le dernier gouvernement est en place, l'industrie a rencontré la ministre 650 fois.
C'est immense.
Alors, c'est assez problématique de voir qu'on veut apaiser ces compagnies-là et ces lobbyistes-là au détriment de la santé des gens et de notre nature.
Effectivement. D'ailleurs, là, on va parler un petit peu pour finir de Premières Nations. Le projet de loi C-37, c'est une loi qui concerne l'eau, les sources d'eau, l'eau potable, l'accès à l'eau, entre autres, là, en passant par les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres de Premières Nations. Puis, on remonte quand même à loin, à presque 15 ans, là, parce qu'en 2015, le gouvernement libéral, quand il est arrivé au pouvoir, avait promis de mettre fin à tous les avis d'ébullition d'eau, et il n'a toujours pas tenu cette promesse-là. Effectivement, là, on compte 38 avis de qualité de l'eau potable à long terme en vigueur présentement, touchant 36 communautés de Premières Nations à travers le Canada. Le cas le plus connu, ça reste celui de la Première Nation de Neskentaga, qui fait affaire à un avis d'ébullition d'eau. Depuis maintenant 31 ans, quand est-ce que le gouvernement va se réveiller puis va donner l'une de ces choses-là, un droit acquis pour l'immense majorité des Canadiens aux communautés de Premières Nations ciblées, Madame News?
C'est vraiment la question à demander, puis j'apprécie que tu l'as demandé. C'est inacceptable qu'encore aujourd'hui, dans un pays développé comme le Canada, qu'il y a des communautés autochtones qui n'ont encore pas accès à l'eau potable. On parle aussi du fait que le gouvernement n'a pas donné les financements pour les infrastructures nécessaires, peut même avoir, pour certaines communautés qui ont l'eau potable, ils l'ont pas directement à leur maison. Alors, il y a beaucoup de travail à faire et c'est préoccupant de voir que le gouvernement vient de déposer un projet de loi qui ignore la consultation avec les Premières Nations tant qu'à l'eau potable et la protection et le fait qu'on ignore les droits garantis dans le droit international, notamment par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, qui est aussi protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, quand on voit que le gouvernement continue à faire des projets de loi qui ignorent leur responsabilité envers le bien-être des Premières Nations, il faut se gratter la tête et dire, ben qu'est-ce qu'il fait? Même les chefs autochtones et la population autochtone dit que le gouvernement néglige leurs préoccupations des signataires et des traités historiques et leur souveraineté. Alors, c'est assez problématique de voir que le gouvernement continue à ignorer leurs responsabilités.
Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu ce matin, Madame Muse, puis surtout merci d'avoir abordé un sujet aussi important. On vous souhaite le meilleur des étés possibles.
Merci beaucoup et encore une fois, bon été à tout le monde.
C'était Nathan Gagné pour l'initiative de journalisme local à Kapuskasing.